Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Vous le savez bien désormais, j'en suis certain, que le sujet de ce matin est celui de la perspective ou le point de vue de Dieu sur l'homosexualité. Nous voulons examiner cette question particulière à travers le regard de Dieu et, par conséquent, à travers la parole de Dieu. Je suppose qu'il devrait y avoir une certaine raison pour isoler un péché comme celui-ci et prêcher à ce sujet, alors qu'il y a plein d'autres péchés qui sont tout aussi détestables pour Dieu. La réponse à ceux qui pourraient se demander pourquoi nous isolons celui-ci devrait être évidente, mais juste au cas où elle ne le serait pas. C'est que ce péché a revêtu des propriétés uniques dans notre culture. Il a été déclassé en tant que péché et transformé en une sorte de groupe de droit civil. Il est à ce point particulier une question politique et non une question morale, un problème de liberté et non une question morale ou spirituelle. Le fait que cela soit débattu non seulement dans le secteur privé, mais également dans le secteur public, dans les écoles publiques et au gouvernement, les partis politiques et les conventions, et que des tribunaux statuent à ce sujet, que des décisions relatives y soient prises au cours des assemblées législatives, et qu'ils soient traités par les gouverneurs et les présidents et les maires, et ainsi de suite, a pris ce péché, et l'a en quelque sorte sorti de la pluralité générale des péchés, pour lui octroyer une identité à part entière. Ainsi donc, du fait de son importance dans notre culture, il mérite d'être abordé. J'aimerais commencer par lire une écriture très pertinente, et j'aimerais que vous regardiez 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Trois versets se détachent par rapport à cette question. Versets 9, 10 et 11. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, et vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Version Sommer. C'est l'un de ces passages qui annonce à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les injustes n'héritent pas le royaume de Dieu. Les injustes qui n'hériteront pas du royaume de Dieu sont qualifiés comme fornicateurs, idolâtres, adultères, efféminés, homosexuels, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux et ravisseurs. Tel est le genre de personne qui n'entre pas dans le royaume de Dieu. Ainsi, si vous faites partie de ce genre de personne, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. C'est ça la mauvaise nouvelle. Pourtant, la bonne nouvelle se trouve au verset 11. Ce genre de personne peut être purifié. Ce genre de personne peut être sanctifié, et ce genre d'individu peut être justifié, et ils l'ont déjà été, et continuent de l'être, au point où ils pouvaient dire à l'église de Corinthe, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous étiez des fornicateurs, et des idolâtres, et des adultères, et des efféminés, et des homosexuels. Vous étiez des voleurs, des personnes cupides, des ivrognes, des outrageux, et des ravisseurs. Mais ce n'est plus le cas. Parce que vous avez été lavé de ces péchés, et vous avez été sanctifié, et vous avez été justifié. C'est une bonne nouvelle. Je suis ici pour dire avant tout que Dieu a de bonnes nouvelles pour les homosexuels. Ils peuvent être rachetés, ils peuvent être sauvés, ils peuvent être délivrés de ce péché, ils peuvent être lavés de leurs tâches, ils peuvent être placés sur la route d'une vie pieuse, sainte, pure, appelée sanctification. Et cela s'est produit à l'église de Corinthe. Lorsque Paul a écrit plus tôt aux Corinthiens dans la première partie de cette lettre, il a dit « Parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Vous êtes des personnes basses, méprisées, humbles. Vous voulez savoir jusqu'à quel point ils étaient de condition basse. L'église de Corinthe était pleine d'anciens fornicateurs, anciens idolâtres, anciens adultères, anciens efféminés, anciens voleurs, anciens cupides, anciens ivrognes, anciens calomniateurs, anciens escrocs, et même d'anciens homosexuels. Ils avaient cependant été lavés et été sanctifiés, c'est-à-dire éloignés d'un style de vie pécheresse, et ils étaient justifiés, c'est-à-dire déclarés justes par Dieu, en vertu des mérites du Christ. L'église de Corinthe était pleine de ce genre de personnes, et c'est le cas de Grace Church. Il en était de même pour certains d'entre nous, mais nous avons été lavés, et nous avons été sanctifiés, et nous avons été justifiés parce que Dieu a porté son amour salvateur sur les pécheurs et leur a pardonné. Je me suis tenu à plusieurs occasions derrière ce baptisphère qui est derrière moi et en dessous de mes pieds, tout comme d'autres, et j'ai baptisé plusieurs qui ont été délivrés d'une vie de péché homosexuel, une vie de sodomie. Par la grâce de Dieu et à travers son amour salvateur, les pécheurs homosexuels peuvent être rachetés. Ils sont récupérables. Ils peuvent être lavés. Ils peuvent être séparés de ce péché. Et ils peuvent mener une vie pure. Ils peuvent recevoir un cœur nouveau et devenir aptes à entrer au ciel. Il y a de cela quelques mois, je me tenais dans mon bureau et je regardais le petit appareil qui enregistre des messages qui arrivent par téléphone. Et j'en ai remarqué un en particulier. Un jeune homme a appelé et a demandé que tu passes le voir à l'hôpital. Il est en train de mourir. Et j'ai donc décidé de m'y rendre immédiatement. Et je suis descendu à Riverside Drive, au petit hôpital qui s'y trouve. Et j'ai passé la porte et demandé à la personne qui était à l'accueil dans quelle chambre il était. J'ai longé le couloir. Je suis entré dans la pièce et j'ai regardé cet homme dans le lit. Un homme que je ne connaissais pas. Mais je pouvais au premier regard dire qu'il était en train de mourir du sida. Il avait quasiment la peau sur les os, décharné, avec des yeux sombres et des joues creuses, presque sans vie. Et quand je l'ai vu, mon attention s'est déplacée vers un autre homme étendu nonchalamment sur un canapé, qui se trouvait dans la chambre d'hôpital, et je lui ai dit « Je m'appelle John MacArthur », sur quoi cet homme s'est dépêché de sortir de la chambre en disant « Je vous laisse ». J'ai marché jusqu'au chevet, sachant ce que j'étais sur le point d'entendre. J'ai pris sa main et il m'a dit « Je suis en train de mourir. Il ne me reste plus longtemps à vivre. J'ai le sida et le cancer bouffe mon corps à une grande vitesse. » Et puis, il a éclaté en sanglots et il a dit « Mais j'ai peur de mourir parce que je sais que j'irai en enfer. » Il a dit « J'ai mené une vie de péché, une vie sordide, homosexuelle, pendant, je crois, 26 ans. » Ensuite, il a continué à me raconter. J'ai dit « Parlez-moi de vous. » Et il m'a parlé d'une mère chrétienne et d'un père chrétien. Il m'a dit avoir grandi dans un foyer chrétien. Il m'a parlé d'avoir fait 2 années d'école biblique. Il m'a parlé de toute la rébellion qu'il y avait dans son cœur et de ses débuts dans ce péché d'homosexualité et de comment cela a fini par le sortir à grand vent de l'école biblique pour le pousser dans 26 années de la vie la plus grossière du courant dominant de la communauté homosexuelle farouche. Il a dit « Maintenant, je suis en train de mourir et je sais que je vais aller en enfer. » Je lui ai dit « Parlez-moi de l'homosexualité. Parlez-m'en. Dites-moi comment vous voyez cela. Dites-moi ce que vous en pensez. » Et tandis qu'il sanglotait et pleurait, il a dit « C'est le péché. J'ai toujours su que c'était le péché. Je déteste cela. Dieu déteste cela. Et cela condamne les hommes. » Et il le disait encore et encore, une 12 de manières, comme une thérapie pour son âme. La confession lui avait fait du bien. Et j'ai dit « David, comprenez-vous l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile salvateur de Jésus-Christ ? » Et il a dit « Oui ». J'ai dit « Parlez-moi de l'évangile ». Et il m'a réitéré sans hésiter comment Christ était Dieu fait chair, né, mort et ressuscité pour notre salut, et l'efficacité de sa mort sur la croix en substitut pour les pécheurs. Et il le savait très bien, et il comprenait que le salut s'obtenait par la grâce au moyen de la foi, et que seul Dieu pouvait sauver du fait de sa miséricorde celui qui croyait de manière délibérée et était désireux de se détourner de son péché. J'ai dit, êtes-vous prêt à vous détourner de votre péché, à vous repentir, à crier à Dieu et à lui demander le salut? Il a dit, oui, oui, oui. J'ai donc dit, eh bien, le salut est un don que Dieu seul peut accorder. Permettez-moi de prier pour vous et de demander à Dieu de vous l'accorder, et j'ai commencé à déverser mon cœur, et tandis que je tenais sa main et priais, il serrait fermement ma main, les émotions de son cœur s'exprimant à travers la main, et j'ai plaidé avec le Seigneur, lui demandant de lui faire grâce et de le sauver, et de lui pardonner toute cette vie d'iniquité horrible, et de le délivrer. Et j'ai prié pendant un long moment, après lequel il a éclaté en prière, une sorte de prière en sanglots, et il a encore confessé son péché, probablement une demi-douzaine de fois au Seigneur, plaidant avec lui, de se montrer miséricordieux, de lui pardonner pour la manière dont il a blasphémé son nom, et rejeté l'Évangile, et a vécu dans le péché. Cet homme était, pour ainsi dire, un homosexuel absolument invétéré, qui a péché d'une manière qui est au-delà de toute description, et il crie miséricorde. Après que sa prière se soit terminée, il y a eu une paix et un calme qui sont descendus sur son cœur, et tandis qu'il ouvrait ses yeux pour tenter d'essuyer les larmes de ses yeux, un sourire a fendu son visage, et il regardait le mur, et il a continué de regarder le mur, avec un petit sourire sur son visage. Et j'ai dit, « Que regardez-vous ? » Il a dit, « Je regarde le calendrier, parce que je veux me rappeler le jour de mon nouveau départ. » Et il a poursuivi pour réitérer qu'il ressentait que Dieu l'avait sauvé, qu'il acceptait par la foi le fait que s'il croyait en Christ, Dieu le sauverait par sa grâce. Et il a cru à ce moment qu'il avait été converti. Je pense que c'était probablement le lendemain que Lance Quinn lui a apporté une copie de The Gospel According to Jesus, l'Évangile selon Jésus, pour qu'il puisse lire et comprendre pleinement et être certain que sa foi était réelle. Et dans les 5 jours qui ont suivi le jour où j'ai prié pour lui, il est parti, il est mort. Mais je lui ai dit ce jour-là, au chevet de son lit, j'ai dit, « À présent, vous êtes devenu chrétien. Qu'est-ce qui va être différent ?» Il a dit, « Ma vie tout entière va être différente. » Il a dit, « La première chose, c'est que ma vie tout entière est pleine de personnes qui vivent dans le monde homosexuel. Le type qui était là quand vous êtes entré est mon amant. Mon infirmier est un homosexuel, et l'association du SIDA, des personnes séropositives, m'a envoyé un bénévole pour être avec moi ces jours-ci, et il est également homosexuel. Toutes les personnes de ma vie sont homosexuelles. » Et il a dit, « Maintenant, j'ai la responsabilité de leur parler à tous du péché dans lequel ils se sont engagés, et les inviter à venir à Christ. Dieu lui a accordé 5 jours pour le faire, et ensuite, il est parti. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'une des plus grandes tragédies de notre époque est la reclassification de l'homosexualité. En tant que péché, car lorsqu'on l'enlève de la liste des péchés, on les déconnecte de leur source de salut. C'est une reclassification accablante. C'est manquer de bienveillance envers les homosexuels que d'appeler cela un style de vie optionnel, une préférence sexuelle. Vous ne leur faites pas du bien en le faisant. Ce n'est pas aimable, ce n'est pas judicieux. Ce n'est pas une marque d'affection, c'est accablant. La chose la plus aimable que vous puissiez dire à une personne qui est impliquée dans le péché de l'homosexualité, c'est qu'il s'agit d'un péché qui condamne et prive à jamais du royaume de Dieu. C'est la chose la plus gentille que vous puissiez jamais dire. Un diagnostic adéquat est absolument crucial. Il ne s'agit absolument pas d'une orientation sexuelle préférée. Ce n'est pas un mode de vie alternatif, ce n'est pas quelque chose de génétique. Il s'agit d'un péché et d'une perversion qui condamne les hommes, des hommes et des femmes. L'énorme mouvement qui vise à apaiser la culpabilité et à relâcher la convoitise effrénée, à libérer les homosexuels pour qu'ils puissent vivre comme ils veulent et se sentir bien à ce sujet, en définissant leur conduite sexuelle blasphématoire comme rien de plus qu'un autre style de vie, est une chose accablante. Comme nous le verrons plus tard, ceux qui défendent les droits des homosexuels auront le sang des homosexuels morts sur leurs mains. L'homosexualité constitue une convoitise insatiable. C'est une pulsion qui dépasse tout ce que les personnes hétérosexuelles peuvent expérimenter. Et ces gens ne se contentent pas de justifier leur propre convoitise, leur désir désinhibé, effréné, insatiable. Mais ils essaient également de transmettre cela à tout le monde, étant donné que cela devient un argument encore plus important, plus ils arrivent à présenter cela comme quelque chose de normal. Et ainsi, il le communique aux enfants. J'ai lu cette semaine que Star Trek II, la seconde génération, a introduit 2 acteurs homosexuels pour vivre sur un vaisseau spatial, parce qu'ils sont aussi des personnes et méritent de la considération. Il y a des sketchs comiques à la télévision ou les personnages pourraient être homosexuels, je ne sais pas. En tout cas, les rôles qu'ils jouent sont des rôles homosexuels, en vue de rendre cela tout à fait normal. Le gouvernement est en train de créer un genre de groupe de défense des droits des homosexuels. L'Association de l'éducation nationale des États-Unis est une association de défense de l'homosexualité qui s'efforce de faire entrer des partisans des droits des homosexuels dans les écoles publiques, afin d'aider les enfants qui ont ces tendances et de s'assurer qu'ils sont libres de faire cela à l'insu de leurs parents. Ils veulent transformer vos enfants en homosexuels. Ils veulent rendre cela normal. Ils veulent que tout le monde s'implique dans cette pratique, parce que cela leur permet de se sentir mieux, en meilleure sécurité. Les hommes politiques recherchent les voix des personnes homosexuelles, en menant campagne en faveur des droits des homosexuels. C'est quelque chose d'absolument inconcevable. Ils veulent que nous acceptions le fait que les homosexuels constituent une minorité légitime comme les Noirs, les Hispaniques ou autres races, et que les homosexuels ont injustement subi des discriminations, et à cause des discriminations injustes, ils doivent obtenir à présent réparation, ou ils ont désormais droit à une espèce de traitement de faveur, en vertu de la loi.
Une grosse campagne de propagande vise à faire croire à la société et à l'Église que l'homosexualité est une pratique tout à fait normale, normale et convenable pour certaines personnes, pour beaucoup de gens et peut-être même pour vous. Les homosexuels, à ce qu'ils disent, ne sont qu'une minorité supplémentaire qui devrait jouir de tous les droits humains et de toute liberté humaine et devrait être autorisée à exprimer leurs actes sexuels exactement comme n'importe quelle minorité est en droit d'exprimer librement son héritage culturel. Bien sûr, c'est ridicule. Ils ne constituent pas une race. Il ne s'agit pas d'une question raciale. Ce n'est pas un problème culturel. Ce sont des déviants. Ils ont une perception pervertie de la sexualité, et ils veulent assimiler cela à une minorité raciale. Sommes-nous supposés attribuer les droits qui reviennent aux minorités à des meurtriers? Qu'en est-il des trafiquants de drogue? Ils ont une certaine orientation. Que dire de ceux qui sont pédophiles? Ils ont une préférence sexuelle. Qu'en est-il des violeurs? Ils ont une préférence sexuelle. Ils ont une orientation sexuelle. Devraient-ils avoir des droits civils? Devraient-ils obtenir réparation pour la manière dont nous les avons traités? Complètement ridicule. Leur permettre d'exprimer leurs préférences comme nous l'avons fait est devenu la cause de l'épidémie de santé publique la plus dévastatrice de l'histoire de cette nation. Leur permettre d'exprimer leurs préférences est devenu la cause de ce qui constituera l'éruption financière la plus dévastatrice que le domaine médical n'ait jamais connue et qui menace de causer la faillite de toute l'Amérique, tandis que nous essayons de payer pour l'épidémie du sida. Leur permettre d'exprimer leurs préférences conduira des dizaines de milliers, sinon des millions d'enfants et de jeunes gens dans la fosse de la perversion, tout cela sous la tolérance de l'État et de la direction du Conseil de l'éducation. Juin, à Los Angeles, était le mois de la Gay Pride, fierté gay, dans les écoles publiques, et désormais, ce sera le cas tous les mois de juin. Ce genre de comportement constitue tout simplement l'expression d'une convoitise sexuelle tordue et non contenue. C'est exactement ce que je veux dire. Je comprends que la fornication est un péché, et je comprends que l'adultère constitue un péché sur le plan sexuel. Cependant, il y a des proportions dans le péché de l'homosexualité qui la propulse au-delà de tout ce que je suis capable de comprendre. Je pourrais continuer encore et encore avec une litanie de statistiques, mais ce n'est pas nécessaire. Quelques-unes suffiront pour vous donner une idée du caractère désinhibé de cette convoitise. Un homosexuel moyen a eu des rapports sexuels avec plus de 500 partenaires sexuels différents. À Los Angeles, qui se situe au-dessus de la moyenne, l'homosexuel moyen a 300 partenaires sexuels par an, ce qui fait pratiquement un par jour, et il s'agit des personnes différentes. 30% d'entre eux ont eu plus de 1000 partenaires sexuels, et plusieurs parmi eux en ont eu plus de 1500. Ils ont cessé de compter lorsqu'ils ont atteint 1600 partenaires. La conduite des actes qu'ils accomplissent n'a aucune limite. Dans les maisons de bains gays à San Francisco, où le sida est réellement né et s'est développé, et où il s'est propagé à travers l'Amérique, cela a commencé dans une petite communauté de personnes dans ces maisons de bains. Les statistiques sont assez intéressantes. Les homosexuels passeraient en moyenne 3 nuits par semaine dans la maison de bain, Ce sont des chiffres très conservateurs. Ils m'ont été communiqués hier par un médecin. Il passe en moyenne 3 nuits par semaine dans la maison de bain. Et chaque nuit, il faut compter de manière conservative entre 10 et 30 rencontres sexuelles. Projetez cela sur plus de 52 semaines par an, et vous pourrez voir comment ils s'entretuent littéralement en répandant tout simplement leur maladie là et au-delà. Et en partant de là, ils l'amènent vers le reste de la nation, le reste du monde. Tous les actes concevables et tous ceux qui sont inconcevables sont inclus. Vous serez peut-être intéressé de savoir que sur la moyenne de 500 partenaires sexuels dont dispose un homosexuel, la grande majorité est anonyme. Dans la maison de Bingay, les 10 à 30 rencontres sexuelles qui ont lieu chaque nuit sont toutes anonymes. Vous ne voyez même jamais la personne avec laquelle vous les avez. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui relève du génie. On dit que l'homosexualité constitue une espèce de génie génétique. Moi, je n'y vois vraiment rien de génial. Ce n'est pas une sorte d'hérédité. Il s'agit d'une convoitise débridée, tordue et désinhibée. Je pourrais vous donner plus de statistiques, mais je pense que vous en avez suffisamment pour pouvoir comprendre. De toutes les façons, cela ne va pas plus aider à discuter du problème. Nous en sommes très conscients. Ce que je veux dire ici, c'est ceci. Ce péché vil, minable, méchant, comme tout autre péché vil, minable et méchant, est pardonnable par la grâce de Dieu. C'est ce que je veux annoncer. Jésus-Christ est mort sur la croix, et dans son corps, il a porté le péché de l'homosexualité. Il a porté dans son propre corps nos péchés sur la croix. Je ne sais pas si vous l'avez jamais vu de cette manière, mais pensez à l'horreur qu'il a portée. Et il l'a fait pour pouvoir racheter les homosexuels. Pour recevoir ce pardon cependant, le pécheur doit voir ce qu'il fait comme étant un péché. Et tant que nous couvrirons le caractère minable et pécheur de l'homosexualité, nous favoriserons et encouragerons la damnation. C'est pour cela qu'il y a une responsabilité liée au sang. Nous avons parlé la semaine dernière de la manière dont l'Amérique est coupable du sang des enfants qui sont tués à travers l'avortement. Et je crois que nous sommes coupables du sang des homosexuels qui seront exécutés en tombant entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et cela se produit déjà à travers le sida, étant donné que ceux qui ont défendu l'homosexualité en le présentant comme un autre style de vie ou un droit civil endossent une partie de la culpabilité. Il y a un effort presque inlassable de la part des homosexuels. Ils sont quasiment. Ils sont vicieux et ils sont violents dans leur tentative de prouver qu'il s'agit d'un style de vie normal pour eux, étant donné qu'ils sont confrontés à une culpabilité insupportable en essayant de prouver que c'est génétique, c'est héréditaire, c'est en quelque sorte dans les gènes ou les chromosomes. Permettez-moi de tout résumer en disant ceci. J'ai lu des myriades de choses à ce sujet. La ligne de fond est ceci. Il n'existe absolument aucune preuve dans le monde scientifique que l'homosexualité soit génétique. Il n'existe pas de différence physiologique vérifiable entre un homosexuel et un hétérosexuel. Et vous seriez peut-être intéressé de savoir que la grande majorité des homosexuels entretient également des rapports sexuels avec le sexe opposé. Il s'agit d'un choix, et nous le verrons ce soir. Il y a plusieurs fausses recherches qui sont menées par des homosexuels pour essayer de faire croire que c'est génétique. Aucune d'entre elles n'a abouti au niveau scientifique, ni ne le sera, parce que la Bible nous dit qu'il s'agit d'un péché. C'est le péché. Aucun effort dans la recherche, aucun effort dans l'étude de l'endoctrinologie, aucun effort de réexamen de la science, aucun effort de rationalisation ne parviendra à changer ce que Dieu dit. C'est le péché. C'est le péché. Vous pouvez être certain, en entendant certaines de ces recherches, que si elles ont été conduites par des homosexuels, ou si elles sont menées par ceux qui défendent les droits des homosexuels, qu'ils ont manipulé les données, s'ils parviennent à prouver, d'une quelconque manière, que cela pourrait, d'une certaine manière, se passer sur le plan génétique, c'est le péché. Il ne s'agit pas juste d'un certain genre d'orientation héréditaire. Retournons à présent dans 1 Corinthiens 6, et regardons spécifiquement deux mots. Au verset 9 se trouve le mot efféminé, suivi par le terme homosexuel. Voici deux sortes de personnes qui n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Efféminé et malakos. Le terme signifie mou. Il en est venu à signifier féminin ou efféminé, en parlant d'un homme qui se comporte comme une femme, qui est mou, féminin. Il est également devenu un terme technique pour désigner le partenaire passif dans une relation homosexuelle, celui qui joue le rôle féminin. Arne et Gringrich, l'un des lexiques classiques, dit Le terme incluait également les hommes et les garçons qui se permettaient de devenir des prostituées mâles pour des homosexuels. Vous voyez, il y a des hommes et des garçons qui ne recherchent pas vraiment l'homosexualité, autant qu'ils cherchent de l'argent. Et ils se prostituaient donc pour des homosexuels. Ils n'ont peut-être pas cette même passion, cette même pulsion dévorante et perverse qui anime les homosexuels. Ils se vendent cependant à eux. Ce terme les intégrait, des prostituées de sexe masculin, qui constituent des partenaires passifs, au service des homosexuels agressifs, ou des partenaires passifs qui sont homosexuels et qui jouent le rôle féminin, les efféminés. Et ensuite le terme homosexuel, arsenocoïtes. Il signifie tout simplement quelqu'un qui a une relation avec le même sexe, notamment un homme qui entretient des relations avec un homme. Paul dit que ce genre de personne n'entre pas dans le royaume de Dieu. Et il a vraiment couvert le terrain. Les homosexuels actifs, agressifs, les homosexuels passifs, acceptants, mous, efféminés, celui qui s'y engage de manière agressive, celui qui constitue le partenaire passif, l'homosexuel du genre macho et l'homosexuel doux, efféminé, tous les deux sont exclus du royaume. Ils ne l'héritent pas. Pourquoi? Parce que ce genre de modèle de péché est exclu du royaume de Dieu. Ils n'appartiendront jamais au royaume de Dieu, avec toutes ses bénédictions et toute sa gloire. L'Église se doit donc de dire aux gens que la porte d'accès au royaume est fermée, si on vit de cette manière, si c'est votre choix, et que vous n'êtes pas disposé à reconnaître cela comme péché, et vous en repentir, et plier le genou, et accepter le pardon du Christ, la porte du royaume de Dieu sera fermée devant vous. L'Église doit, telle une sentinelle, annoncer cela. Nous devons dire aux homosexuels, si vous persistez dans ce mode de vie, et choisissez de vivre de cette manière, la porte du royaume de Dieu vous sera fermée au nez. Si vous êtes disposé à vous repentir, à venir à Christ pour recevoir le pardon et être lavé et purifié, la porte du royaume vous est ouverte. En tant que sentinelle, en tant que ceux qui tiennent les clés du royaume, en tant que ceux qui ouvrent et ferment, l'Église et ses dirigeants doivent délivrer ce message. Ce qui est triste, c'est que l'Église, dans plusieurs cas, ne le fait pas. En fait, l'Église aujourd'hui est devenue le premier défenseur des droits des homosexuels. Même l'Église catholique dispose en son sein d'une organisation qu'on appelle Dignité et qui défend les droits des homosexuels. Les Églises protestantes ont certainement leur groupe de défense des droits homosexuels. Le Conseil mondial des Églises, le Conseil national des Églises, qui est composé des Églises libérales, les Églises des principales dénominations libérales, refuse de considérer l'homosexualité comme un péché et participe de ce fait à la conspiration accablante qui se joint à Satan pour condamner les homosexuels, puisqu'il refuse de reconnaître le péché qui les condamne. Les dénominations majeures, les méthodistes, les épiscopaliens, les presbytériens, ordonnent les homosexuels, ordonnent les lesbiennes et disposent de groupes de défense des droits des gays, comme ils les appellent. Récemment, tandis que je me trouvais dans la région de Raleigh-Durham, en Caroline du Sud, ça doit être la Caroline du Nord, pour quelques réunions, il m'a été rapporté qu'une église baptiste du sud local avait marié deux homosexuels, avait tenu une cérémonie de mariage pour deux homosexuels et avait ordonné une personne homosexuelle pour l'autoriser à prêcher. L'église a été expulsée de l'association baptiste du Sud. Les homosexuels épiscopaliens ont dernièrement eu leur convention à Houston. Ils disposent de toute une association capable de tenir sa propre convention. Le pasteur de l'Union méthodiste de Thousand Oaks, je lisais dans la presse l'autre jour, Terry Buzard est son nom, a dit, je cite, « Un homosexuel est le bienvenu dans cette congrégation et jouira de tous les droits et privilèges. Les Quakers, les bons vieux légalistes et pieux Quakers, l'une de leurs organisations déclare, et je cite, l'homosexualité n'est pas plus déplorable que le fait d'être gaucher. Maintenant, je ne sais pas ce que cela vous fait à vous qui êtes gaucher, mais je préfère ne pas m'attarder dessus. Ces groupes de défense des droits des homosexuels et ces organisations qui se trouvent au sein de l'Église, au sein du christianisme, vont encore plus loin que ça. Je déteste le dire, mais je vais quand même le faire pour que vous saisissiez la portée de cette conspiration. Il y a un effort plutôt considérable de la part de certains théologiens, de tenter de prouver que l'apôtre Paul était un homosexuel refoulé, que l'apôtre Paul, à ce qu'ils disent, se débattait avec ses propres pulsions sexuelles, et qu'il n'est jamais parvenu à régler cela, et est par conséquent devenu un homosexuel qui se détestait et qui refoulait ses envies. Et c'est la raison pour laquelle il a parlé contre l'homosexualité. C'était un stratagème pour dissimuler ce qu'il ne parvenait pas à comprendre, et c'est pour cette raison aussi qu'il était contre les femmes. Ses préjugés anti-femmes constituaient tout simplement une expression de sa véritable homosexualité, mais il ne l'a jamais réellement compris, ce qui explique sa colère contre les femmes et les homosexuels. Il existe même une dénomination pour les homosexuels chrétiens. Il existe une organisation à New York appelée Evangelicals Concern, qui se trouve être une association pour les homosexuels du fondamentalisme évangélique, quel qu'il soit. La dénomination des homosexuels chrétiens se nomme l'Église métropolitaine. Il y a un certain nombre d'églises au sein de la communauté métropolitaine. Troy Perry était leur fondateur. Je n'oublierai jamais le jour où je devais débattre avec Troy Perry. Cela a été fixé à Hollywood, au Peterson Publishing Building, sur Sunset Boulevard, et il venait avec Ralph Blair, qui était le président de Evangelicals Concern. Et cette organisation à New York est censée compter en son sein plusieurs homosexuels évangéliques célèbres. Leur conseil d'administration avait quelques noms à sa base et plusieurs cases vides réservées aux personnes qui, disait-il, n'étaient pas encore sorties du placard. Et on devait parler de l'homosexualité, Troy Perry étant là pour représenter l'église de la communauté métropolitaine. Nous nous sommes assis autour de la table. Le modérateur du débat était Sherwood Wirt. Il a finalement été publié dans un périodique chrétien. À l'époque, il était rédacteur en chef de Decision Magazine, le magazine de Billy Graham, et nous avons commencé la discussion. Avant la rencontre, on m'avait fourni quelques informations internes au sujet de Troy Perry. C'était très important, et je voulais les garder jusqu'au moment opportun. Nous sommes donc entrés dans le débat, et la première partie de la discussion, c'était que la Bible était dépassée. Il s'agit d'un document ancien. Elle avait été écrite à une époque peu sophistiquée, où les gens ne comprenaient pas vraiment les phénomènes sociologiques contemporains et n'étaient pas impliqués dans la psychologie, ce qui fait qu'elle ne représente rien de plus qu'un préjugé primitif à l'encontre de l'homosexualité. Et ceci constitue la preuve qu'il s'agit bien d'un livre désuet que nous devons mettre à jour. Elle est vraie en ce qui concerne les questions spirituelles, mais pour ce qui est de ce sujet, elle démontre son caractère ancien et son incompétence à faire face à la sophistication du XXe siècle. Tel était leur dialogue de base, et ce qu'ils disaient en essence, la ligne de fond, c'était que Dieu ne s'était pas encore mis à la page. Il est très vieux jeu et désuet, et devrait s'asseoir aux pieds de certains de ces types pour apprendre les dernières nouveautés. Et c'est cela la ligne de fond. Et j'ai discuté à ce niveau et j'ai dit, « Vous êtes réellement en train de me dire que Dieu est déconnecté de la réalité. » Et nous en avons débattu. Et ensuite s'est présentée la question de quand bien même on considérerait l'homosexualité comme une espèce de disposition définie par Dieu, n'y a-t-il pas de règles à la manière de se conduire? Aller comme ça, bon gré, mal gré, partout, entrant et sortant des bars, et entrant et sortant des maisons de bain, et entrant et sortant des relations, et à nouveau les allées, ruelles, et les salles de bain, et toutes ces choses. N'y en a-t-il absolument aucune? Et ensuite ils ont rigolé. Non, cela doit être fait. Une personne doit prendre un partenaire de vie, et nous croyons en l'homosexualité monogamique. Et nous sommes entrés dans cette partie de la discussion, et à ce moment particulier, j'ai dit, j'aimerais lire quelque chose. Et j'ai sorti ce papier qui m'avait été remis, et qui retraçait le style de vie de Troy Perry, qui consistait en ruelles sombres, salles de bain, maisons de bain, citez-les, la totalité des 9 hectares. Et je me suis tout simplement mis à les lire. Et j'ai dit, « Ceci est le récit de votre assistant, votre associé à l'église, et c'est ce qu'il me dit être votre style de vie. Est-ce correct ?» Et je me suis mis à lire, sur quoi il est venu me trouver de l'autre côté de la table, et j'avais moi aussi quelqu'un avec moi, Mike Ryan, qui était un joueur de football professionnel, que j'avais amené avec moi pour l'occasion. Et Mike s'est tout simplement tenu sur ses jambes, et Troy Perry a fait demi-tour et est sorti de la pièce, et c'en était fait. La fin de la discussion, la fin du débat. Ils avaient essayé de nous faire croire que c'était une bonne chose, que Dieu les avait créés ainsi, qu'il s'agissait d'un don de sa part, et qu'ils menaient des existences tout à fait morales. Et la vérité dans l'histoire, c'est que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas ainsi. Oh, il y en a peut-être qui n'ont qu'un partenaire, mais ce n'est pas vraiment la règle, et il constitue de loin une minuscule exception. Cette Église, l'Église communautaire métropolitaine, enseigne que l'homosexualité est un don de Dieu. Ils enseignent que Jésus ne s'est jamais montré hostile aux lesbiennes et aux homosexuels. Ruth et Naomi auraient été lesbiennes, et Sodome aurait été détruite pour avoir manqué d'hospitalité. Et j'aimerais vous dire quelque chose, braves gens. Il s'agit d'un principe spirituel simple. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, et pour les personnes viles, tout est vil. Ils sont capables de transformer n'importe quelle relation pure et la faire paraître vile. Tel est leur agenda. Mais le souci, c'est que l'Église s'allie à eux. Il y avait un autre type là, de l'Église presbytérienne, qui se tenait aux côtés de l'Église communautaire métropolitaine, et qui soutenait leur doctrine. Au nom de Jésus-Christ, voyez-vous, ces églises et ces associations chrétiennes qui veulent soutenir l'homosexualité se joignent à la foule accablante qui tente de méconnaître le péché, et le déni du péché condamne l'âme. Cependant, si nous voyons cela comme un péché, alors nous verrons aussi qu'il peut être pardonné. Les homosexuels doivent avoir une vie insupportable. La culpabilité doit dépasser l'imagination. Mais il y a la délivrance. Ils peuvent être libérés. Ce n'est rien de nouveau, soit dit en passant. Paul a été confronté à ces choses. C'était partout. Quand il a dit ici, « Les efféminés, les homosexuels, n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Il ne fait pas allusion à quelque chose que les gens ne font pas. Il parle de quelque chose de courant. Socrate était homosexuel, très actif, comme l'étaient plusieurs dirigeants et philosophes grecs. Platon a écrit une sélection entière dans son Symposium sur l'amour homosexuel. Les historiens nous racontent qu'Alexandre le Grand avait des amants, aussi bien masculins que féminins, comme le font la plupart des homosexuels, et son armée, les soldats sous ses ordres, étaient également impliqués dans l'homosexualité, et plus longtemps, ils étaient partis, des mois et parfois des années dans leur campagne. Plus cette homosexualité devenait grossière et se répandait. Et certains historiens vous diront, quand vous les lisez, que l'une des choses les plus fascinantes au sein de ces armées, qui les poussaient à se battre de manière si vicieuse, est qu'ils ne protégeaient pas leur pays ou leur général. Ils protégeaient leurs amants sexuels, soldats. Et vous voyez également cela se produire aujourd'hui dans les prisons de notre nation. L'amant de Jules César était le roi Nicodème. Gibbon et Toinbeu écrivent tous les deux que l'une des contributions principales à la chute de l'Empire romain était l'homosexualité. Suétone, l'historien, affirme que 14 sur les 15 premiers Césars étaient homosexuels. C'était une pratique répandue à l'époque de Paul, c'était partout. Néron, qui devait être l'empereur en place au moment où Paul écrit ceci, avait pris un garçon du nom de Sporus, l'avait fait castrer, et l'avait ensuite épousé au cours d'un mariage en bonne et due forme, et a vécu avec lui en tant qu'épouse. Il devait être une très bonne épouse parce que le César qui l'a remplacée l'a également pris comme femme. Le monde de Paul n'était en rien différent du nôtre. L'homosexualité était répandue, et il a confronté cela comme péché, et a dit que c'était le péché, comme n'importe quel autre péché, qui vous prive du royaume de Dieu. Paul n'était pas une personne homophobe, qui en faisait trop parce qu'il était un homosexuel qui refoulait ses pulsions. Et ce n'est pas non plus mon cas. Il était vrai à ce qu'il savait que la parole de Dieu enseignait. Il était vrai à ce que le Saint-Esprit l'a inspiré à dire. C'était le péché. Et tant que ce n'est pas confronté en tant que péché, ça ne peut pas être traité. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Rentrons en arrière et découvrons-le. Deutéronome 22 est un bon point de départ. Deutéronome chapitre 22. Peut-être que dans votre passé, si vous n'avez jamais été dans une église fondamentaliste ou évangélique, vous avez entendu un pasteur faire référence à ce verset, probablement dans un autre contexte. Deutéronome 22:5 dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Suivez à présent ceci, car quiconque fait ces choses est bizarre. » Qu'est-ce qui est dit? Non, car quiconque fait ces choses est certainement en train de se rendre à une fête. Non. Car quiconque fait ces choses est quoi? En abomination à l'Éternel. Cela constitue une abomination pour Dieu. Cela le dégoûte et le révolte. Maintenant, une femme n'est pas supposée porter des vêtements d'homme. La première fois que j'ai entendu quelqu'un faire référence à ça, il était en train de prêcher un serment sur pourquoi les femmes ne devraient pas porter des pantalons. Et ce n'est pas ce que ça signifie. Puis-je vous rappeler quelque chose? Aux temps anciens, les hommes portaient des jupes. C'est une interprétation ridicule de ce texte. Tout le monde portait des jupes. Personne ne mettait des pantalons. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il y avait cependant un certain style propre aux vêtements d'homme et un autre style réservé aux vêtements féminins. Mais le terme hébreu dit « une femme ne doit pas porter, littéralement, ce qui appartient à l'homme, qu'il s'agisse des armes, des instruments, des outils ou des vêtements, ou quoi que ce soit d'autre qui efface le caractère distinct de son sexe. C'est une abomination à Dieu. Aujourd'hui, nous appelons les gens qui s'échangent leurs vêtements des travestis. Une personne qui échange sa façon de s'habiller contre celle de l'autre sexe parce que cela induit un certain genre sexuel, une excitation ou une satisfaction sexuelle pervertie. Les hommes sont supposés être masculins, tandis que les femmes doivent être féminines, et Dieu les a fait hommes et femmes. Il les créa hommes et femmes, et il voudrait qu'ils restent ainsi. Et Satan veut effacer, compliquer, pervertir et tordre cela. Nous voyons que cela est courant dans la communauté homosexuelle aujourd'hui. En fait, ils aiment mettre les vêtements du sexe opposé. Les hommes enfilent ces vêtements de femmes et ils s'exhibent en public sous le titre de drag queens. Je n'oublierai jamais une occasion où je roulais avec le tristement célèbre Hawaii 5-0 à Honolulu. L'un des policiers me faisait visiter le sordide Honolulu la nuit. Et il a dit « J'aimerais vous emmener à un endroit pour voir quelque chose que vous ne croirez pas. » Et nous avons conduit dans cette zone, et ici, le long des rues, étaient alignées des douzaines de personnes en bikini et hissées sur des hauts talons, bien coiffées et très maquillées. Et quand nous sommes approchés, nous avons commencé à nous mélanger à eux. Tandis que je marchais avec ce policier, j'ai vu qu'ils étaient tous des hommes. Ils s'exhibaient ainsi, le long des rues, dans leur défilé de fierté gaie, à travers tout le pays. Ils s'habillent de cette manière. Quelquefois, vous les voyez dans la rue, et vous ne le savez même pas. Certains d'entre eux sont des drag queens, c'est-à-dire, ils le font en public. Certains sont des excentriques féminins. Ils le font aussi en public. Certaines des femmes s'habillent comme des hommes, et vous les regardez, et vous demandez si ce sont des hommes ou des femmes. Ils le font de manière publique. Et puis, il y a ceux qui le font en privé. Leur cas constitue ce genre de maladie sordide qui atteint les hommes quand ils enfilent les vêtements de leurs épouses et des choses bizarres comme ça. Ce genre de choses afflige Dieu. C'est une abomination à Dieu, parce que c'est un effort qui vise à supprimer la distinction que Dieu a établie. L'écrivain ancien, Maïmonide, mentionne qu'un homme, habillé de vêtements fantaisistes féminins, serait souvent venu rendre un culte à Vénus et à Astartès, tandis que des femmes vêtues d'armures d'hommes venaient adorer Mars. Cela est si typique à la religion mystique des temps anciens, parce que tout cela faisait partie de leur culture païenne. Satan gouverne le monde, il dirige la culture païenne, et il veut déformer et pervertir l'identité sexuelle. Dieu dit que si vous le faites, cela lui est en abomination. Regardez à 23.1. Un autre problème se pose ici. Celui dont les testicules ont été écrasés, ou l'urètre coupé, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. À présent, vous allez devoir vous poser la question de savoir qui dans le monde peut bien se faire couper ses organes génitaux mâles. Qui pourrait faire cela? Un homosexuel. On les appelle aujourd'hui des transsexuels. Avant, on les appelait des eunuques. Oh, c'était quelquefois pour des raisons religieuses. Il arrivait dans un contexte païen que des parents fassent castrer leur fils de 10 ans pour qu'il puisse se dévouer aux dieux dans le temple. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter qu'ils s'amusent avec les prêtresses qui offraient leurs services aux clients payants. Quelquefois, un roi qui avait un harem voulait que des hommes y viennent pour s'occuper de certaines choses. Il les faisait alors castrer contre leur gré, pour qu'ils ne puissent rien faire avec les femmes du harem. Ainsi donc, on retrouvait les eunuques dans les harems et dans les temples païens, même quand ils étaient encore jeunes. Mais je pense que ce qu'il y a ici, c'est une personne qui se les fait faire, et l'implication serait non seulement la possibilité du culte païen ici, c'est assurément une probabilité, mais il y a également la possibilité d'émettre l'hypothèse d'une perversion homosexuelle. Le texte n'est pas très précis. En tout cas, il y a ici une tentative chirurgicale de supprimer la virilité. Aujourd'hui, ces transsexuels disent « En réalité, je suis une femme piégée dans un corps d'homme ». Et c'est pour cette raison que j'ai besoin de réparer mon corps. Dans les temps anciens, les gens étaient castrés pour leur religion. Ils étaient castrés à cause de leur devoir vis-à-vis, par exemple, d'un roi. Ou alors, ils étaient castrés de leur propre chef parce que cela convenait à leur perversion. Et il est dit ici, « Celui qui se sera fait faire cela n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Si vous êtes un transsexuel, cela sied votre idolâtrie et votre préférence sexuelle. Vous n'entrerez pas dans l'assemblée de l'Éternel. Jamais ? Voulez-vous dire qu'une personne qui a subi une ablation sexuelle ne peut jamais, jamais, plus jamais entrer dans l'assemblée de l'Éternel ? Regardez à Ésaïe 56. Ésaïe 56, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas entrer dans le royaume. Ils ne peuvent pas avoir de relation avec Dieu. Ils ne peuvent pas aller au ciel. Ils ne peuvent pas adorer le véritable Dieu. Regardez Ésaïe 56:3. Rentrez au verset 1 un instant. Au milieu du verset, Dieu dit, « Car mon salut ne tardera pas à venir. Mon salut est sur le point d'arriver. Je vais apporter le salut. » Descendez à présent au verset 3. « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. L'Éternel me séparera de son peuple. » Vous n'avez pas besoin de le dire. Si vous dites, « Je suis un païen. Je suis venu jusqu'ici pour vivre en Israël. Je suis venu jusqu'ici pour adorer dans le temple. Je suis venu jusqu'ici pour honorer le véritable Dieu. » Mais il va probablement me jeter à la porte. Ne le dites pas. Je ne le ferai pas. Dieu dit, verset 3, et que l'eunuque, le transsexuel, ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Il n'y a pas d'espoir pour moi. J'ai été castré. Je ne serai jamais capable d'entrer dans l'assemblée de Dieu. Je ne serai jamais en mesure de marcher avec lui. Ésaïe déclare, ne dites pas ça. Pourquoi? Verset 4, car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Je les sauverai s'ils viennent à moi, s'ils s'accrochent à mon alliance, s'ils choisissent ce qui me plaît. Ainsi, celui qui s'est fait enlever ses organes et qui par là a souillé l'image de Dieu peut être pardonné. Peut être pardonné. S'il vient à l'Éternel. Un mercredi soir, j'étais en train de baptiser au Family Center, avant que nous n'ayons ce bâtiment. Et toujours, j'interviewais les personnes qui venaient pour être baptisées. Mais cette nuit-là, j'avais pris du retard, je pense, et je n'ai pas pu le faire, et quelqu'un d'autre s'en est chargé. Je me suis contenté de faire venir les baptêmes. Alors est arrivée cette dame plutôt costaude, et elle a donné son nom. Et le nom était Carla, et la voix était étrange, et les manières semblaient bizarres. Et cette personne a dit, « Eh bien, je suis ici parce que je veux témoigner de ma foi en Jésus-Christ et être baptisé. » Et un témoignage très bref. Et puis, j'ai simplement baptisé Carla. Mais au fond de moi, je ressentais une détresse. Et je suis sorti et j'ai dit à quelqu'un, « Veille à ce que cette personne vienne à mon bureau, immédiatement après qu'elle se soit rhabillée. » Et cette personne est entrée et j'ai dit, « J'aimerais juste prendre un moment avec vous. J'ai quelques questions. » « Très bien. » J'ai dit, « Je suis troublé. » Je vais être très direct avec vous. Vous êtes sorti des rangs des femmes. Vous avez donné un prénom féminin, mais je pense que vous êtes un homme. Et ensuite, nous sommes entrés dans une discussion sur le fait qu'il avait récemment subi une chirurgie de réattribution sexuelle. J'ai dit, vous ne pensez certainement pas un instant que le Seigneur Jésus-Christ va vous accepter et sanctifier votre style de vie d'homme vivant comme une femme dans une ou plusieurs relations homosexuelles. Eh bien, j'ai toujours été une femme. C'est juste que j'ai été prise au piège dans un corps d'homme. Et j'ai dit non. Vous avez toujours été un homme, et à présent, vous êtes un homme castré. Mais vous êtes un homme. À votre naissance, vous étiez un homme, et à votre mort, vous serez un homme. Et vous devez vivre en tant qu'homme, et reconnaître le péché que vous avez fait. Et si vous reconnaissez la nature pécheresse de ce que vous avez fait, et demandez au Seigneur de vous pardonner, et vous repentez, et venez à lui par la foi, vous serez pardonné, et il vous fera grâce. Mais vous devez vivre en tant qu'homme. Débarrassez-vous de ces vêtements. Procurez-vous des vêtements d'homme et prouvez ainsi l'authenticité de la repentance de votre cœur à l'égard de Dieu. Je ne l'ai plus jamais revu. Il s'est rendu dans une autre église plus bas dans la rue et j'ai appelé et parlé au pasteur. Je lui ai raconté l'histoire et ils ont dû régler cela. C'est la vraie vie. Il y a des gens qui font ces choses. Le royaume leur est ouvert s'ils reconnaissent la nature pécheresse de ce qu'ils ont fait. Et font ce qui plaît à Dieu. Eh bien, nous avons parlé des transsexuels et des travestis. Allons directement à la question des homosexuels. Ce sont des éléments de la vie homosexuelle. La vraie question est frappée d'un grand coup dans Lévitique. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête pour te rendre impur avec elle. Une femme n'ira pas s'accoupler avec un animal. C'est une dépravation. Version Sommer. Je vous le dis encore, Dieu ne donne pas des lois au sujet des choses que les gens ne font pas. Ce genre de bestialité et ce genre d'homosexualité a toujours fait partie de la vie humaine. Comme nous le verrons ce soir en regardant Genèse 19 dans l'histoire de Sodome, la ville tout entière s'adonnait à cela. C'était le précurseur de San Francisco. Il dit « Ne faites pas ça. C'est une abomination de coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination d'avoir des relations sexuelles avec un animal. C'est une dépravation. » Suivez encore le verset 24. « Ne vous rendez pas impur par une de ces pratiques. C'est « en s'y adonnant que les nations que je vais déposséder en votre faveur se rendent impures. Le pays entier a été souillé, et je vais intervenir pour punir sa faute, et le pays vomira ses habitants. » Il dit « Regardez, je vous ai amené dans ce pays. Je vous donne ce pays, et je suis en train de vous dire que la raison pour laquelle vous êtes capable de recevoir ce pays, c'est parce que j'en ai expulsé les autres peuples. Et la raison pour laquelle je les ai expulsés, c'est parce qu'ils ont agi de cette manière. Cela a provoqué la destruction de la précédente nation. Regardez-les. Ils sont homosexuels. Ils s'adonnent à la bestialité. Ils sont impliqués dans, et ils citent d'autres choses comme l'inceste et ainsi de suite. Ils sont impliqués dans ces choses. C'est leur style de vie. Et je suis en train de les expulser. Ma colère s'est abattue sur eux. Et je vous dis que si vous agissez comme eux, ma colère descendra également sur vous. Vous n'êtes pas exemptés. Ils ne l'ont pas été. L'homosexualité souille le pays et attire le jugement de Dieu. Verset 26. Vous, au contraire, vous obéirez à mes lois et à mes ordonnances, et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'autochtone, ni l'étranger qui réside au milieu de vous. Personne, car toutes ces abominations ont été commises par les hommes du pays qui y ont séjourné avant vous, et le pays en a été souillé. Craignez donc qu'il ne vous vomisse, vous aussi, si vous le souillez, comme il va vomir la nation qui vous a précédé, car tous ceux qui commettront l'un ou l'autre de ces actes abominables seront retranchés, tués, de leur peuple. Si vous faites cela, vous mourrez. Vous obéirez donc à mes commandements, et vous ne suivrez aucune des coutumes abominables que l'on pratiquait avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs par elles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Braves gens, c'est Dieu qui parle. Si vous faites cela, vous souillerez le pays. Si vous souillez votre pays, vous mourrez. Nous observons cela, n'est-ce pas? Nous le voyons. Les gens disent, est-ce le jugement de Dieu? Bien sûr que c'est le jugement de Dieu. Le sida est-il le jugement de Dieu? Bien sûr que c'est le jugement de Dieu. Toute maladie vénérienne constitue le jugement de Dieu construit dans l'usine de la vie humaine. Si vous faites ça, vous mourrez. Si vous faites ça, je détruirai le pays. C'est une abomination. Ce péché est insupportable pour Dieu. Il ne permettra pas que cela continue. Il jugera ceux qui font cela par la mort et détruira une nation qui tolère cela. À présent, dites-moi où l'Amérique se trouve par rapport au jugement de Dieu. Les choses ne vont pas s'améliorer pour nous dans ce pays, braves gens. Les jours de gloire sont terminés. Il me semble que nous dévalons la colline vers la fosse du jugement. Certains des défenseurs des droits des homosexuels disent « Eh bien, Jésus est venu mettre un terme à la loi. C'est vrai, il s'agit bien de la loi de l'Ancien Testament, et Jésus est venu mettre un terme à la loi. Non, il n'est pas venu mettre un terme à la loi. Il est venu en tant que la fin de la loi, l'accomplissement, le point culminant de la loi, celui qui a parfaitement respecté la loi. Et il a dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Et il réitère la loi, n'est-ce pas, dans l'inspiration du Saint-Esprit qui est accordé à Paul, d'écrire comme il écrit dans 1 Timothée 1:10. La loi n'est pas faite pour le juste, verset 9, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, verset 10, les débauchés, les homosexuels. La loi est encore écrite pour inviter les homosexuels à rendre compte. C'est ce qui est dit. 1 Timothée 1:9, 10. Rien n'a changé. La loi morale de Dieu n'a pas changé, parce que Dieu n'a pas changé. Tout ce qui est juste a toujours été juste et le sera toujours. Tout ce qui est mal l'a toujours été et sera toujours mal. La moralité ne change pas puisque Dieu ne change pas. Dieu a dit que si vous faites cela, vous souillerez votre pays. Si vous souillez votre pays, je détruirai votre nation. Si vous faites cela, vous mourrez. Cependant, il y a encore de la miséricorde avant la mort et de la miséricorde avant le jugement pour ceux qui se repentent.
Regardez à Lévitique 20. Un dernier verset, et nous nous arrêterons pour ce matin. Lévitique 20, 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, avoir des rapports sexuels avec un homme qui a des rapports sexuels avec un homme. Ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Voilà ce qui est dit. Tuez-les. Leur sang retombera sur eux. Ils méritent de mourir. Le sang crie à nouveau pour la mort. La loi de Dieu dit, ils seront punis de mort. La loi de Dieu a dit que si vous assassinez quelqu'un, vous devez mourir, n'est-ce pas? Il faut punir de mort quiconque tue une personne. Je vous ai dit la semaine dernière que dans le cas de l'avortement, le sang crie depuis la terre, et Dieu l'entend. Le massacre de l'innocent en Amérique, tandis que nous décimons les petits bébés. Leur sang crie contre leurs assassins. Le sang de ces bébés retombe sur ceux qui les ont tués. Ils méritent de mourir. Écoutez ceci. Les homosexuels ont du sang sur les mains, ainsi que ceux qui préconisent l'homosexualité et ceux qui luttent pour les droits des homosexuels. Ces gens encouragent et favorisent ce péché accablant. Et il y a du sang qui retombe sur ceux qui ne les détruisent pas. Cette nation, au lieu de juger, de condamner, de punir l'homosexualité, la défend. Et par conséquent, a le sang des homosexuels décédés sur ses mains, exactement comme il a le sang des bébés morts sur les mains. C'est une nation qui a les mains tachées de sang. Et si vous pensez que nous sommes sur le point d'entrer dans l'utopie américaine, alors vous ferez mieux de revoir vos estimations. Du point de vue de Dieu, ce sont des jours sérieux. Après avoir commencé comme une nation chrétienne, comment est-ce possible que nous soyons aujourd'hui à un point où nous avons des politiciens, des candidats à la présidence, au Congrès, au Sénat, les gouverneurs, les maires, les membres du Conseil et tout ce genre de choses qui défendent les droits des homosexuels, et ces gens ont des chances d'être élus? Ces personnes sont responsables devant Dieu parce qu'elles favorisent et encouragent les gens à entrer dans un péché qui constitue une abomination pour l'Éternel. Cela dit, Dieu déclare qu'être un travesti est une abomination. Être un transsexuel est une abomination. Être un homosexuel est une abomination. Favoriser et encourager n'importe quelle de ces choses constitue une abomination pour Dieu. Il y a une culpabilité relative au sang versé, associée à tout cela, et le salaire en est la mort. Et Dieu jugera la nation qui tolère cela, et Dieu détruira les gens qui font cela. Pour autant, je retourne directement là où nous avons commencé avec cette merveilleuse vérité. Ce péché, dans toutes ses catégories, et dans tous ses différents extrêmes, est pardonnable. Cela vous dit-il quelque chose au sujet de la grâce de Dieu? Cela vous montre-t-il à quel point notre Dieu est miséricordieux? Cela vous parle-t-il de la mort du Christ, qui dans son propre corps a porté ses mêmes péchés? Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Si vous venez à lui dans votre péché, il est disposé à vous pardonner. C'est le message qui est adressé aux homosexuels, et c'est le message que vous devez transmettre aux homosexuels. Ce soir, nous parlerons davantage de ce problème, et ensuite, nous examinerons l'histoire de Sodome, d'où est venu le terme sodomie. Et Romains, chapitre 1, est un important passage qui est niché dans le chapitre d'Ésaïe pour compléter notre étude. Père, tandis que nous concluons ce matin, nous sommes les premiers à reconnaître qu'il s'agit d'un sujet désagréable et repoussant. Nous n'aimons même pas nous attarder dessus. Et pourtant, nous savons que nous devons parler de manière prophétique au temps dans lequel nous vivons. Père, nous sommes attristés du fait que tant de personnes soient prises au piège de ce péché, et nous sommes attristés de ce qu'il est reclassé ou déclassé en tant que péché, et du fait que même les Églises nient son caractère pécheur, et par conséquent, sont responsables du sang de ceux qui meurent en punition pour cette iniquité. Père, nous prions tout simplement que tu sauves plusieurs de ceux qui sont pris dans ce péché. Délivre-les, ô Dieu, comme tu l'as fait pour plusieurs à travers les années. Nous savons que tu es capable de sauver les pécheurs. Nous sommes confortables dans notre propre péché, mais nous savons que tu détestes l'orgueil et l'hypocrisie et une langue mensongère et la flatterie. Nous nous sentons plus à l'aise avec ces péchés. Celui qui nous est moins confortable, et nous pourrions nous croire justes à nos propres yeux, parce que nous ne commettons pas celui-ci, et pourtant nous sommes, nous aussi, pécheurs, au même titre. Mais Seigneur, tu peux pardonner à tous. Je te prie tout simplement, dans ta grâce, de répandre ta miséricorde sur ceux qui sont pris au piège de ce péché, qu'est l'homosexualité, et que tu en délivres plusieurs, avant qu'ils ne soient détruits pour toujours. Je prie pour que nous soyons suffisamment bienveillants pour dire la vérité, assez aimable pour avertir et leur permettre ainsi de venir à Christ pour être guéris. Je prie pour que les dirigeants de notre pays puissent prendre une position ferme à ce sujet. Nous avons le sentiment que si ceux qui soutiennent l'homosexualité venaient à prendre le pouvoir, ce sera sûrement le signe que tu auras ôté ta main de cette nation et nous auras abandonnés. Par conséquent, Seigneur, nous demandons que tu nous fasses grâce et nous accordes d'avoir des dirigeants qui voient ceci sous son vrai jour. Donne-nous des gens qui ne vont pas tolérer cela, et qui pourtant prêcheront l'amour et la miséricorde salvateur du Christ. Nous te remercions de ce que ta parole aborde les questions qui nous concernent et nous donne de la clairvoyance. Rends-nous à présent fidèles à obéir. S'il y a parmi nous ce matin, Seigneur, une quelconque personne qui ne serait pas sauvée et qui serait prise dans ce péché, sauve-la, aujourd'hui. Attire-la dans notre salle de prière après le service pour que nous puissions partager avec elle et prier pour elle. S'il y a un chrétien qui te connaît, mais qui a été tenté par son ancien style de vie homosexuel, avant son salut, accorde-lui la force, la victoire et le triomphe. S'il y a quelques jeunes gens dans notre Église qui subissent une influence qui les attire dans cette pratique, sauve-les, délivre-les avant que cela ne se produise, et conduis-nous tous à être des personnes zélées pour les bonnes œuvres, des personnes qui mènent une vie juste et pieuse en ces temps présents. Nous prions dans le nom de notre Sauveur. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.